Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Faut-il craindre une guerre totale et notamment nucléaire? Les propos de Vladimir Poutine qui menace d'utiliser ce type d'armes font froid dans le dos. On verra qu'il faut prendre au sérieux ce que dit le maître du Kremlin. Il appelle aussi, et c'est la première fois depuis le 24 février, à une mobilisation partielle des réservistes alors qu'il est en difficulté sur le front ukrainien. 300 000 soldats sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée russe. C'est un tournant dans cette guerre, une alerte explicite. On entendra la réponse du président américain Joe Biden. Il vient de s'exprimer à la tribune des Nations Unies. On entendra aussi le discours très ferme et sans ambiguïté du président Macron, également hier à New York aux Nations Unies. Il dénonce le retour des impérialismes et des colonies en visant la Russie. On en débat ce soir dans Punchline avec mes invités, mais d'abord le rappel des grands titres de l'actualité. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Emmanuel Macron appelle le monde à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. Il appelle la communauté internationale à lutter contre Vladimir Poutine, qui lui se dit prêt à utiliser contre l'Occident tous les moyens de son arsenal. Les décisions de M. Poutine, qui a également annoncé la mobilisation de réservistes, conduisent à isoler davantage la Russie. Propos d'Emmanuel Macron que l'on entendra dans un instant. Joe Biden, le président américain, lui estime que la Russie a violé de manière éhontée les principes fondateurs des Nations Unies. Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister tout simplement, a lancé le président américain. Il dénonce la rhétorique nucléaire dangereuse de Vladimir Poutine. Personne ne gagne une guerre nucléaire, a prévenu le président américain. Hasard de l'histoire, un Américain et deux Russes sont en route en ce moment même pour la Station Spatiale Internationale. Les trois astronautes ont décollé de Baïkonour cet après-midi à bord de la fusée russe Soyouz, un voyage qui représente un rare signe évidemment de coopération entre Moscou et Washington en plein conflit entre la Russie et l'Ukraine. En France, Elisabeth Borne s'est entretenue aujourd'hui avec les présidents des groupes parlementaires. Son objectif, déminer une session qui s'annonce musclée, prévue le 3 octobre prochain. En passant en revue plusieurs sujets, dont celui des retraites. Des discussions qui n'ont pas convaincu les membres de la NUPES. Écoutons le député communiste André Chassaigne.
Quand on vient dans ce type de rencontre, on veut avoir des précisions. On veut savoir, par exemple, est-ce qu'il y aura des amendements sur la loi retraite dans le cadre du PLFSS. Et là, l'impression qu'on a, c'est qu'on veut nous faire acheter un âne dans un sac. C'est-à-dire, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment la question des retraites va être traitée.
Les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissent les conséquences traumatiques à l'âge adulte. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tire la sonnette d'alarme, dresse un bilan de leurs séquelles. Un bilan qui, pour son président Édouard Durand, doit impérativement conduire à une remise en question. Écoutez-le.
73% des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Ceci doit amener à une remise en question de toute la chaîne, depuis le repérage des violences sexuelles jusqu'à la décision judiciaire. Renforcer nos capacités de repérage. Renforcer le déroulement de l'enquête pénale, l'audition de l'enfant selon le protocole NICHD qui renforce la procédure. Des experts, psychologues, psychiatres formés, spécialisés sur les violences sexuelles.
Voilà, enfin un mot de l'épidémie de Covid qui repart à la hausse. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction est de 1,4. Une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Voilà pour les grands titres de l'actualité. On revient évidemment sur la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine, allocution matinale dans laquelle il menace évidemment d'utiliser toutes les armes à sa disposition. On est avec le général Vincent Desportes. Merci d'être avec nous. Bonsoir, général.
Bonsoir.
Professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Joseph Massescaron, écrivain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Éric Revel, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. On va écouter Vladimir Poutine qui menace donc l'Occident. Et puis on va écouter la réponse de Joe Biden qui n'est pas dans la surenchère, mais qui pose des jalons. Écoutez les deux hommes.
Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Il pense qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie.
La Russie a dit s'être sentie menacée, mais personne n'a menacé la Russie. Et personne d'autre que la Russie n'a cherché le conflit. En fait, nous avons mis en garde de ce qui arrivait. Nous avons cherché à éviter cette guerre. Une guerre est menée contre la culture et l'histoire ukrainienne. Et on trouve de très nombreuses preuves des crimes de guerre de la Russie.
Voilà pour les propos de Joe Biden, précédé de Vladimir Poutine, que l'on a entendu, général Desportes. La menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine est-elle une réalité? Peut-il se servir? Doit-on craindre un conflit nucléaire sur le sol européen? Parce que c'est évidemment l'Europe qu'il menace.
Alors, il faut craindre. C'est un conflit qui se conduit depuis le 24 février sous menace nucléaire. On ne peut pas penser qu'il ne le fera jamais. Il est toujours susceptible de le faire. Et on doit savoir que Poutine n'avouera jamais sa défaite. Il ne perdra pas. Et donc, si vous ne perdez pas, au dernier moment, vous utilisez les armes dont vous disposez encore, comme son armée conventionnelle a beaucoup souffert. La preuve, c'est qu'il demande à la renforcer de 300 000 réservistes. Eh bien, il pourrait très bien utiliser une arme nucléaire tactique sur le sol ukrainien, probablement pas dans le Donbass, parce que ce serait chez lui, mais sur le sol ukrainien.
Est-ce que c'est une stratégie délibérée de Vladimir Poutine? Certains parlent d'actes de désespoir. Est-ce qu'on en est là ou pas du tout pour le président russe?
Bien, il est acculé, il est véritablement dans une impasse, parce que si les Ukrainiens continuent comme dans leur mouvement en avant, ce qui n'est pas sûr par ailleurs, eh bien, ils risquent d'être repoussés les troupes russes risquent d'être repoussées jusqu'à la frontière. Et ça n'est pas possible pour lui, et donc il faut qu'il gagne du temps. Faut qu'il gagne un mois. Alors, un mois, pourquoi? Parce qu'ensuite, l'hiver va arriver et les combats seront beaucoup plus compliqués. Et là, le général hiver va bloquer les avancées de part et d'autre. Et ce qu'il espère, c'est que cet hiver aura deux conséquences. La première, c'est que les opinions publiques européennes, occidentales, risquent de s'affaisser, de se lasser de ce combat, parce qu'elles vont avoir des privations en termes de chaleur, par exemple, en termes d'énergie. Et de l'autre côté, il compte bien, lui, mettre en place, tirer parti de ces 3 ou 4 mois pour renforcer son armée, pour former ses recrues et être capable de gagner. Donc il ne doit pas perdre dans le mois qui vient. Donc il faut faire peur. Et je crois que la double manœuvre de référendum dans les 4 oblasts concernés à l'est de l'Ukraine et cette menace ouvertement brandie de l'arme nucléaire a, vers l'Occident, cette seule volonté de faire peur. Le discours de ce matin avait deux opinions vers lesquelles on s'adressait, l'interne et l'occidental, mais vers les occidentaux, c'est ça, je dois faire peur pour bloquer les efforts pour que les opinions publiques se dressent contre le gouvernement et qu'ils cessent ou qu'ils diminuent leur aide à l'Ukraine.
Général Desportes, ces 300 000 réservistes qui seront appelés là dans les prochains jours, est-ce qu'ils iront directement sur le front ou pas? Est-ce qu'il faut du temps pour les former, les acheminer? Que feront-ils? Est-ce qu'ils sont sur les bases arrières? Est-ce qu'ils seront au combat?
Alors, c'est bien le problème de Poutine, c'est que c'est un effort qu'il fait maintenant, mais avant que ces 300 000 hommes représentent une force militaire, il va se passer des mois, des mois et des mois. Parce qu'il ne suffit pas de peindre quelqu'un en vert pour qu'il devienne un soldat. Une fois même qu'il est soldat, il faut l'entraîner avec les autres. Et c'est cette armée que M. Poutine veut constituer doit conduire un combat qui est compliqué, un combat blindé, mécanisé, dont nous avons eu la preuve que les Ukrainiens le maîtrisent beaucoup mieux que les Russes. Donc il va... il faut beaucoup de temps pour que ça se passe comme ça. Et puis, on a un problème d'armement dans l'armée russe, puisque l'armée russe a perdu en gros tous les matériels qu'elle avait engagés le 24 février. Or, son industrie a beaucoup de mal, compte tenu de l'embargo, en particulier sur les composants électroniques, à reconstruire l'armement qui a été cassé. Donc, tout ça va prendre du temps, et cette force-là ne pourra peser dans la bataille, si elle pèse un jour, qu'à partir du printemps, c'est-à-dire probablement fin mars.
Donc, on risque d'avoir une situation enkystée pour les prochains mois, si rien ne se passe entre-temps, évidemment, s'il n'y a pas un geste sur une arme nucléaire.
Exactement. Et sauf si les Ukrainiens arrivent véritablement à percer. Mais on voit qu'on est, ça se calme, la contre-offensive ukrainienne, et c'est normal.
Pourquoi?
Le rythme de la guerre est toujours syncopé. Vous savez, vous foncez, vous faites un trou, vous avancez, mais derrière, il faut sécuriser, il faut ramener la logistique, donc vous ne pouvez pas avoir une contre-offensive qui dure des mois et qui aille sur des centaines de kilomètres, ça n'est pas possible. Je dois conquérir, je dois sécuriser, je dois me réorganiser, retravailler sur mes troupes qui ont souffert. Il y a eu beaucoup de morts ukrainiens. Donc, reconstituer les unités, les réenvoyer. Donc, il est peu probable que le rythme de la contre-attaque continue comme il avait commencé.
Une question de Joseph Massescaron.
Oui, général, je vais vous poser une question. C'est-à-dire que on voit bien dans votre énoncé, dans votre présentation de l'armée russe, notamment, qu'il y a un problème d'encadrement.
Oui.
Par rapport même à l'armée ukrainienne. Est-ce que, à votre avis, ce problème d'encadrement peut expliquer en partie, parce qu'évidemment pas seulement, en partie, la multiplication des crimes de guerre que l'on constate? Et question évidemment qui est corollaire, c'est est-ce qu'en faisant venir, en multipliant justement l'arrivée des réservistes, on risque pas également de voir une multiplication encore plus grande de crimes de guerre?
Et notamment, je complète juste, le manque de sous-officiers, de sous-officiers dans l'armée russe.
Non, général des portes.
Vous avez totalement raison. Alors, il y a les réservistes, et puis il y a les gens qu'on va recruter dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons. Ceux-là, il y a peu de chances qu'ils n'en commettent pas de crimes de guerre. Donc, il est évident que le risque s'accroît. Et comme vous le dites fort justement, l'armée russe n'a pas de corps de sous-officiers professionnels. Et dans les armées occidentales, c'est au fond la colonne vertébrale permanente, c'est le corps des sous-officiers. Et donc, les soldats sont laissés à leurs propres initiatives, qui sont basées sur la violence. L'armée russe est une armée qui est extrêmement violente en son sein. Et donc, ces soldats ne voient pas très bien pourquoi ils ne déploraient pas la même violence à l'extérieur que ceux qu'ils vivent à l'intérieur. Donc, on va voir évidemment les crimes de guerre se multiplier.
Bon, j'en profite, vous poser une question. Bon, en face du discours très menaçant de Vladimir Poutine, on a eu donc, Laurence Ferrari avait tout à fait raison de souligner, la non-surenchère de Joe Biden, et puis aussi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui a appelé au dialogue et la négociation. Donc ça, c'est deux points importants. Mais ma question portait sur, vous avez parlé d'armes nucléaires tactiques,
oui,
qui ne sont pas des armes nucléaires stratégiques,
non,
par définition.
Non.
Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut estimer le dégât dans la population qu'une arme tactique aurait sur le sol ukrainien, et ce que ça entraînerait d'ailleurs en termes de retombées, de poussière pour des pays comme le nôtre, je pense à mon pays, à la France, avec évidemment en tête que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières.
Bien sûr. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre la puissance des destructions des armes de dissuasion qui sont anti-cités, donc pour détruire des cités, et les armes nucléaires tactiques qui sont anti-force. Alors, maintenant, il est difficile de répondre à cette question, parce que d'abord, ça n'est pas totalement connu, et ensuite, tout dépend au fond de l'effet qu'on en attend. Si on veut tuer 10 000 personnes, on va faire en sorte que la puissance corresponde à peu près à ça, si vous voulez. Et puis, d'accord, et donc, tout dépend aussi de l'altitude à laquelle vous allez faire exploser votre bombe.
Plus il y a retombé ailleurs.
Exactement. Si vous faites exploser très haut, alors vous avez un effet de lumière. Il y a plusieurs effets dans la bombe atomique. Il y a l'effet de flash qui aveugle. Il y a un effet incendiaire. Il y a l'effet de poussière. Il y a l'effet de radiation. Et plus la bombe explose haut, et ça se règle facilement. Et là, donc, plus le cône dans lequel s'exerce la destruction est important. Donc le président Poutine peut dire « Ok, on va tuer 5000 personnes. » Ou il dit « J'en tue 100 000. » Et en fonction de ça, les militaires vont régler leur affaire pour que ça fasse ça. Alors maintenant, pour répondre à votre deuxième question, il est clair que toute bombe atomique, nucléaire, tactique tombant sur le sol ukrainien nous menace, nous, Européens, parce qu'on ne maîtrise évidemment pas les retombées. Par contre, évidemment, les Américains ne sont pas en danger, ni d'ailleurs les Anglais.
On fait une toute petite pause. On vous retrouve dans un instant, Général Desportes. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur cette menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine. Emmanuel Macron demande que l'on mette la pression maximum sur la Russie et sur Poutine. On en débat dans un instant et on y revient dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
. 18h17, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est avec le général Vincent Desportes. On va écouter tout de suite la réaction d'Emmanuel Macron, président français, qui répond à Vladimir Poutine, qui, vous le savez, a brandi la menace nucléaire contre l'Occident. On écoute Emmanuel Macron il y a quelques instants depuis New York.
Ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine. pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du premier ministre indien. Et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir.
Effectivement, Emmanuel Macron qui souligne que la Chine et l'Inde ont fait entendre une voix un peu dissonante, appelant à la paix et non pas appelant à la surenchère. Général Desportes, quand il dit mettre le maximum de pression sur Poutine, quand on brandit l'arme nucléaire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Écoutez, militairement, rien. Militairement, rien.
On est au maximum de ce qu'on peut faire en livraison d'armes ?
Non, on est au-delà. On est au-delà.
On est au-delà du maximum.
C'est ce qui explique que les flux de livraison d'armement ont baissé au cours de cet été, simplement parce que tous les stocks, la France d'abord avait très peu de stocks, mais tous les stocks qui étaient disponibles pratiquement ont été envoyés. En ce qui concerne les Stinger, par exemple, les missiles antiaériens, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les Américains auraient donné plus de 60% de leurs armes. Mais eux ont quand même quelques conflits dans le monde et ne voudraient pas être totalement désarmés si la grande conflagration avec la Chine arrivait. Donc on voit bien qu'il y a une limite. Et on voit que les chaînes de production d'armement occidentales, européennes encore plus évidemment que américaines, ne sont pas immédiatement prêtes à donner un flux permanent et important d'armement. Donc là, il y a un temps de respiration. Le gouvernement français a pris des mesures pour accélérer la production de ces armements, de ces munitions, mais ça ne se fait pas en un jour. Il faut construire des chaînes de production, etc. Et donc là encore, c'est une affaire de temps.
Monsieur. Alors on évoquait pendant la pause les canons César. Combien est-ce qu'il faut de temps pour fabriquer un canon César ?
Écoutez, aujourd'hui, si j'ai bien compris, il faut trois ans pour faire un canon César. Et il a été décidé par le gouvernement, en accord avec Nexter, qui est le principal fabricant, de raccourcir ce délai pour le porter à un an. Mais c'est quand même un an. Et en ce qui concerne les munitions, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait construire des chaînes de production, il faut avoir de la main d'œuvre et on sait qu'on en manque pour arriver à faire ça. Donc il faut donc un effort de guerre et je rappelle que le ministre Le Cornu, le ministre de la Défense, a parlé d'économie de guerre en ce sens et qu'il a prévu la mise en place d'une réserve industrielle. Le jour où, si jamais nous avions à nous battre un peu dans les conditions des Ukrainiens, il faudrait très vite pouvoir renforcer nos chaînes de production, donc avoir une réserve capable de s'investir dans nos usines d'armement pour arriver à faire l'effort qui serait nécessaire.
Encore une question, Joseph Massescaron.
Comment expliquez-vous que nous manquions en effet de munitions ?
Eh bien, je vais vous dire, parce que les choses sont très simples. Vous n'ignorez évidemment pas que pendant 25 ans, les budgets de la défense se sont effondrés. Que les deux dernières présidences avant le président Macron, celles de Nicolas Sarkozy et du président Hollande, ont diminué toutes les deux d'un tiers la puissance de l'armée française.
Oui, mais Jacques Chirac avait ouvert considérablement le budget de la défense.
Il avait ouvert.
Sous Jacques Chirac, oui, il avait ouvert les vannes. Il avait obtenu beaucoup de crédits pour le ministère de la Défense. Enfin, Jacques Chirac, hein, je parle.
Mais au bilan, quand vous regardez la tendance, elle est extrêmement lourde. Et donc l'armée française, dont hérite le président Macron en tant que président de la République, c'est une armée qui n'a pas de stock, qui a peu de matériel, dans lequel on a un bateau sur deux qui ne peut pas naviguer, un char sur deux qui ne peut pas rouler, etc. D'où la loi de programmation militaire qui est en train de se terminer, qui a permis de remettre à peu près à niveau. Mais on a quand même une armée dont on dit qu'elle manque d'épaisseur. C'est-à-dire que nous sommes capables du meilleur, parce que l'armée française est excellente. Mais elle est excellente ponctuellement dans des espaces réduits, au Sahel, elle est excellente, elle gagne tout ce qu'elle fait. Mais l'armée française est devenue une arme de police internationale. Elle n'est plus une armée capable de supporter les batailles qui sont conduites depuis 7 mois. Pas plus que les autres armées européennes, mais encore moins que les autres armées européennes qui sont, elles, encore plus fragiles.
Les Britanniques sont un peu plus armés, pour le coup, que nous.
Pas du tout. Pas du tout, parce que l'armée d'abord, les Britanniques ont fait le choix traditionnel chez eux dans la dernière loi de finances de renforcer leur marine et de diminuer leurs forces terrestres, c'est la tradition britannique. Et les Britanniques se sont usés de manière très forte pendant le conflit en Irak et le conflit en Afghanistan. Donc l'armée de terre britannique est dans une situation comme l'armée terre allemande, beaucoup plus difficile que la nôtre.
Revenons juste d'un mot à la Russie, évidemment, qui nous intéresse au plus haut point. Si, scénario du pire, Vladimir Poutine tirait un missile nucléaire, même tactique, il jouerait, vous dites, à court terme, en fait. Ce serait vraiment une histoire de survie politique pour lui ?
Ah, moi, je pense qu'à long terme, il a évidemment tout à perdre. Sa nation, la Russie a tout à perdre, lui a tout à perdre, etc. Même ses relations, évidemment. Xi Jinping s'est évidemment opposé à cette affaire-là. Enfin, tous ses copains, quelque part, sont opposés à l'usage de cette arme nucléaire. Donc, les conséquences à long terme seraient déplorables pour lui. Mais il réagirait comme une bête blessée, acculée au fond du couloir. La bête blessée au fond du couloir, elle vous saute à la gorge. Et lui, l'arme dont il dispose pour arrêter momentanément et pour survivre lui-même, c'est arriver à quelque chose. Or, s'il tire nucléaire, il est clair que les choses vont s'arrêter. Et donc, il aura un certain temps pour respirer, retrouver une autre solution. Donc, il joue la survie de son régime. Je pense qu'il joue aussi sa propre survie. On sait qu'il est obsédé par la mort de Nicolas II, trucidé par ses propres gardes, et que donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup. On dit que les deux parties ont des objectifs existentiels. Mais lui, Poutine, joue l'existence de son pouvoir, mais la sienne propre. Je crois qu'il en est persuadé.
Éric Revel, oui,
mais en général, on est d'accord pour dire qu'il faut ménager une porte de sortie à Vladimir Poutine. D'ailleurs, tous les conflits sont toujours terminés par une négociation et un traité de paix. Si Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, il se fermerait lui-même cette porte de sortie.
Sûrement, ce serait extrêmement compliqué. Mais là, je pense qu'on quitterait la rationalité, et on serait véritablement dans un acte de survie politique et de survie humaine de la part de Poutine. Mais on ne peut pas l'exclure. Ne peut pas l'exclure. Hein, le chef acculé, ben, il va utiliser ce qui lui reste pour ne pas perdre. C'est la logique du pari, vous savez. C'est pour ça que les conflits sont toujours difficiles à arrêter, parce que chacun se dit, j'ai déjà misé déjà beaucoup. Il a énormément misé, Poutine, et il a perdu. Mais il se dit, si je mise encore un peu, je peux gagner. Et s'il se dit, si je mise une arme nucléaire, je vais gagner, il peut le faire.
Quel est le rapport de force entre l'Occident et la Russie ? Explication de Solène Boulan, et puis je vous passe la parole, Général Desportes, juste après, écoutez.
Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les États-Unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1 300 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
Général Vincent Desportes, on comprend pourquoi Joe Biden dit « personne ne gagne une guerre nucléaire ». Le nombre d'ogives à peu près similaire entre la Russie et les États-Unis.
Vous savez, à ce niveau-là, le nombre d'ogives n'a plus aucun
sens.
Ne compte
pas.
On dit qu'à partir du moment où on a tiré une centaine d'ogives appartenant à l'arsenal de la dissuasion nucléaire, le monde est détruit. Après, et c'est pour ça, que ne dissuade-t-on plus, que dissuade-t-on plus avec 300 armes ou avec 5000 armes que 300 ? Au fond, la France dissuade autant que les États-Unis. À partir du moment où nous avons nos sous-marins à la mer pouvant faire un tir de riposte, nous sommes aussi dangereux que les États-Unis. Et donc, évidemment, ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer les arsenaux n'a pas véritablement de sens. Et s'il y a une guerre atomique, il n'y aura pas de guerre atomique. On n'est pas dans la guerre atomique, d'accord, mais on est dans une réaction tactique qui pourrait utiliser une arme atomique. Et l'escalade d'après, c'est ça. Et donc, évidemment, les Européens ne peuvent, les Occidentaux ne peuvent pas et ne doivent pas réagir, parce que là, on s'embarque dans l'escalade, celle qu'on redoute tant depuis Cuba. Hein. C'est Cuba qui nous a, la crise de 62, qui nous a appris ce que ça, nous fait comprendre ce que ça pouvait être. Et évidemment, là, on irait vers la fin du monde. Sauf si, à un moment donné, les gens s'arrêtent. Quoi. On a détruit Moscou et New York, ils disent, bon, on va arrêter, on va faire quelque chose. Mais ça passerait par des destructions et des millions de morts. Donc, évidemment, nous n'en sommes pas là.
Est-ce que les militaires que vous êtes pensent que nous sommes en train de basculer sur quelque chose qui pourrait ressembler à une troisième guerre mondiale ou pas du tout? Ou est-ce qu'on n'y est pas du tout? Et il faut le rassurer nos auditeurs et téléspectateurs, auquel cas.
Moi, je souhaite beaucoup d'intelligence et de retenue à nos dirigeants. Parce que nous marchons sur des braises. Et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Et on sait bien que nous sommes vivants. Moi, je suis né, et vous ne seriez pas né, si la crise de Cuba n'avait pas été réglée par des dirigeants qui avaient conscience de ça, qui avaient dialogué. Le président Kennedy et le président Khrouchtchev vont dialoguer, rester solides et ne pas céder à la tentation du pire. Donc, nul ne sait, il y a beaucoup de scénarios de sortie, mais nul ne sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de devin. Et c'est pour ça que je crois que nous devons être extrêmement à la fois fermes. Il ne faut pas laisser ce genre de comportement se multiplier. Le président Macron l'a fort justement dit hier. Il faut être ferme, mais en même temps, il faut être raisonnable et il faut être réaliste. Et en ce sens, je crois que les pays européens qui sont jusqu'au boutistes, je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Baltes, nous comprenons leur logique. Ils veulent tirer parti de cette guerre pour casser le plus possible la Russie, pour que cette menace dont ils ont peur ne se concrétise pas dans les années à venir. Mais je crois que les vieux pays européens, peut-être un peu moins apeurés par la Russie, doivent être eux-mêmes raisonnables pour arriver à conduire un dialogue. C'est pour ça qu'il est important qu'une grande conférence de paix soit mise en place le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, les conditions, évidemment, ne sont réunies ni chez Poutine, ni chez Zelensky.
Et il faut continuer à soutenir massivement l'Ukraine, comme vous l'avez bien mentionné, sûr, en termes d'armement. Bien Merci sûr. Beaucoup, Général Desportes. Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Michaël Dorian.
Ruée sur les billets d'avion en Russie depuis l'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle des réservistes pour renforcer ses troupes. Les ventes de billets d'avion pour quitter le pays ont explosé. Les billets pour des vols directs vers les destinations les plus proches de la Russie ont déjà tous été épuisés pour aujourd'hui. La NUPES présente une proposition de loi pour taxer les super-profits des grandes entreprises. Leur objectif est d'obtenir un référendum d'initiative partagée. Mais le texte signé par 240 parlementaires doit maintenant obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel sous un mois et près de 5 millions de signatures citoyennes pour déclencher un référendum. Et puis l'épidémie de Covid repart à la hausse. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants.
18h31, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on continue à parler de la situation en Ukraine, des menaces de Vladimir Poutine, menaces aux armes nucléaires. Bernard-Henri Lévy sera mon invité exceptionnel. Il revient d'Ukraine. Que faire face à la menace proférée par Vladimir Poutine? Sa réponse dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Bonsoir Bernard-Henri Lévy.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous revenez du front en Ukraine. Vous publiez un long reportage dans Paris Match cette semaine. L'Ukraine à l'heure de la reconquête. C'est votre quatrième voyage en Ukraine depuis le début du conflit. Vous allez nous raconter ce que vous avez vu sur le terrain dans un instant. Mais d'abord, bien sûr, ces menaces de Vladimir Poutine qui mobilise 300 000 réservistes, qui brandit l'arme nucléaire, la menace de l'arme nucléaire. Le président Zelensky dit « il ne faut pas croire à ce chantage nucléaire. Est-ce que vous êtes aussi sûr que cela, qu'il ne faut pas croire Poutine lorsqu'il dit « j'utiliserai l'arme nucléaire si nécessaire » ?
Je ne peux pas dire que je sois sûr de ça, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il est vraiment dangereux et que ceux qui, depuis 6 mois, disent qu'il faut l'arrêter ont raison. On ne peut pas laisser au pouvoir d'un grand pays doté d'un tel arsenal, un homme pareil, un homme capable de brandir ce type de menace. Si vraiment il fallait donner une preuve ultime qu'il faut le stopper, qu'il faut l'arrêter, il vient de le donner lui-même.
Est-ce que c'est le signe qu'il est aux abois, qu'il est dans une situation désespérée, comme l'estime le chancelier allemand, ou pas ?
C'est le signe d'abord qu'il est un... C'est ce que m'ont dit tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer depuis le sommet de l'État jusqu'au plus modeste des combattants. C'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh, et puis il y a des terroristes comme Poutine. Les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center, et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui... Ça veut dire qu'il a perdu. Ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter. C'est ce qu'il a tout fait pour éviter. Et il ouvre d'ailleurs pour lui-même la boîte de Pandore des ennuis. Comment va réagir la société russe ? Comment vont réagir les familles ? Comment vont réagir ces garçons, ces hommes de 30, 40, 50 ans ? Et qu'on va envoyer, et qu'on va transformer en chair à canon pour une guerre dont ils n'ont rien à faire. Là, il prend un véritable risque. Voilà. Moi, de toute façon, je vais vous dire, je vous l'ai dit ici même, il y a déjà des mois, j'ai toujours été persuadé que Poutine perdrait cette guerre. Toujours. Et ce reportage de match aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? L'Ukraine est en train de gagner. Voilà, je le crois depuis le début, c'est en train de se concrétiser.
On y revient dans un instant. On apprend qu'il y a des manifestations en Russie contre cette conscription qu'annonce Poutine. Il y a eu 200 arrestations dans le pays. Il y a vraiment... La société russe bouge, dit peut-être qu'elle ne veut plus de cette fuite en avant. On sait que les vols sont pleins pour quitter le pays, tenter de quitter le pays. Les Russes ne veulent pas plus de sacrifices, plus de pertes de vie humaine.
Sauf qui peut généraliser les départs pour la Turquie, les départs pour d'autres pays. Rappelez-vous la guerre d'Afghanistan, les Russes ont perdu parce que les mamans ne voulaient plus voir les corps de leurs fils revenir dans des linceuls. C'est ce qui se passe en ce moment. La société russe n'en peut plus. Il y a des sondages qui disent que 20% des sondages sous dictature. On se demande, quand on répond à un sondeur à Moscou, si ce n'est pas un agent du FSB, d'accord ? Même dans ces conditions-là, il y a 20% des Russes qui disent qu'ils sont contre cette guerre. C'est énorme. Ça veut dire que, là encore, on s'est fait peur à nous-mêmes. On a vécu dans le mythe d'une Russie qui serait tenue, accoutumée à une culture de la servitude et qui serait complètement à la botte de Poutine. Ce n'est pas vrai. La Russie, elle a changé. Voilà. La Russie de Gorbatchev n'est pas morte. Elle est toujours là. Et elle ne laissera pas Poutine partir dans ses projets suicidaires, criminels pour l'Ukraine et pour d'autres, et suicidaires pour la Russie elle-même. C'est en ce moment le suicide de la Russie auquel on est peut-être en train d'assister. Il y a des gens qui ne veulent pas se suicider en Russie.
Je voudrais juste qu'on écoute les mots employés par Vladimir Poutine. Après, on reviendra sur la situation sur le terrain, parce que vous l'avez vu de vos yeux. Écoutez les mots qu'il a employés à propos de ses armes nucléaires. Ils sont importants.
Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
Voilà, ce n'est pas du bluff.
On est rassuré puisqu'il n'y a pas de menace sur l'intégrité territoriale de son pays. Personne n'a l'intention d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais menacé l'intégrité de la Russie. Et les États alliés de l'Ukraine font, comme vous savez, très attention. Avec une précision de géomètre, à 1 kilomètre près, de ne pas prendre le moindre risque d'atteindre la Russie. Donc voilà, il n'y aura pas la situation qu'il décrit. Et il faut répéter ça à tous ceux qui sont tentés d'écouter cette petite musique. Je sais qu'il y a en France des gens, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui ont tendance à se laisser impressionner. Par
mais des gens qui ont peur aussi, tout simplement.
Oui, mais ils ont raison d'avoir peur. Bien sûr qu'on peut avoir peur. Mais en tout cas, remettons les idées en place. Personne n'a jamais menacé la Russie. Voilà. Personne. On a même fait depuis 20 ans que Poutine est au 22 et quelques années, des cadeaux à Poutine invraisemblables, des cadeaux stratégiques, militaires, économiques, associations au Conseil de l'Europe, reset des histoires nucléaires, partenariat avec l'OTAN. C'est tout le contraire de la cornérisation ou de l'humiliation dont il se plaint. Donc voilà. Je pense en effet comme j'ai tendance à penser, il faut être très prudent bien sûr, mais j'ai tendance à penser comme Zelensky et comme les Ukrainiens que tout ce qu'on entend là c'est le signe d'un homme, d'un dictateur aux abois qui lâche ses dernières cartouches et qui brûle ses derniers navires, voilà, mais qui va malheureusement finir devant un tribunal international.
J'aimerais qu'on écoute la réponse de Joe Biden. Il s'est exprimé il y a quelques instants à la tribune des Nations Unies. Il a répondu évidemment aux menaces de Vladimir Poutine. Il ne s'est pas livré à la surenchère, mais sa réponse était très ferme, très claire. Écoutez-le.
Nous appelons toutes les nations à rester attaché au régime de non-prolifération nucléaire, à le promouvoir par la diplomatie. Quoi qu'il arrive dans le monde, nous sommes prêts à soutenir des mesures de contrôle. Une guerre nucléaire, ne saurait être gagnée et elle ne doit jamais intervenir.
Voilà, une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée, dit le président américain.
On vient de voir la différence entre un homme de sagesse, de sang-froid et sûr de sa force, Biden, et puis un petit gars, un petit homme affolé et qui perd les pédales, Poutine. C'est très intéressant de voir ces deux images successives. C'est exactement l'impression, je crois, que cela donne.
Quand le président Macron a évoqué hier, à la tribune des Nations Unies, la même, le retour de l'impérialisme et des colonies, il visait la Russie, vous êtes d'accord avec lui ?
Ah ben, naturellement. C'était bien et beau de rappeler ça à la tribune des Nations Unies, devant des pays, des représentants de pays, qui sont encore persuadés que c'est la France, l'Angleterre et l'Amérique qui sont les pays colonialistes. Aujourd'hui, le vrai colonialisme, c'est l'Iran, avec le fameux arc chiite qu'il rêve de constituer, c'est la Chine avec ses routes de la soie, et c'est la Russie avec l'Ukraine et les pays baltes si on l'avait laissé faire, et c'est la Turquie aussi avec un certain nombre de pays voisins. Donc bien sûr que c'est vrai, l'époque a changé, l'âge de l'impérialisme occidental est fini. Et puis maintenant, on revient à l'âge de l'impérialisme néo-ottoman, néo-chinois, néo-perse, néo-russe, néo-califat, l'impérialisme islamiste. C'est ça les empires d'aujourd'hui. Président Macron a absolument raison d'avoir souligné ce point.
Il a raison de continuer à dire il faut négocier, il faut continuer à parler avec Vladimir Poutine, il faut mettre en place des négociations de paix. Ou est-ce que c'est trop tôt, selon vous ?
Attendez. Un jour ou l'autre, enfin, bien sûr que il faudra parler avec les gens qui seront en charge en Russie. Moi, ce que je pense, c'est que ce ne sera pas Poutine. Parce que je crois que les choses sont en train d'aller vite en Russie. Il y a une espèce de... Je crois qu'on assiste aux prémices d'une décomposition intérieure du régime. Et je ne suis pas sûr que le moment venu, Zelensky... Et Macron et Biden parleront avec Poutine. Mais parler avec la Russie, oui. La Russie, c'est un grand pays, c'est une grande culture. Elle a un tropisme vers l'Europe qui est très ancien. Donc il faudra un jour parler avec elle. Mais je ne crois pas qu'on parlera avec Poutine. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas Poutine qui sera à la table des négociations. Mais pas parce que l'Occident l'aura décidé. Parce que le peuple russe se sera débarrassé de lui.
Bernard Henry, vous êtes notre invité sur CNews et sur Europe 1, il est 18h45, vous revenez d'Ukraine. Très bon, très grand reportage dans Paris Match, un journal que je connais bien puisque j'y travaille. Vous y avez rencontré des hommes, des femmes qui se battaient, un bataillon notamment qui s'est rebaptisé le bataillon Charles de Gaulle. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu sur le terrain.
Ce que j'ai vu sur le terrain, oui, d'abord merci pour ce que vous dites de ce texte que je suis très fier d'avoir publié dans Match. Et en effet, j'ai descendu la ligne de front depuis le nord jusqu'au sud, depuis Kharkiv jusqu'à Odessa, en passant par la région de Kherson, de Mykolaïev, de Zaporizhzhia. Donc je suis allé dans tous ces lieux avec les soldats ukrainiens, avec les volontaires, avec les officiers, les hommes de troupes, etc. Donc c'était une expérience tout à fait intéressante parce que ça m'a permis de voir les choses. Et vous savez, même quand on est philosophe, voir les choses avec ses yeux, c'est toujours très important. Et là, le bataillon Charles de Gaulle, pour moi, c'était un moment bouleversant. Voir cette unité, le 183e bataillon, je crois, de l'unité A67-37, qui, en hommage à la France, en remerciement à Macron, en remerciement au canon César que la France a livré, en hommage au général de Gaulle et à l'épopée de la résistance, décide de s'appeler, au fin fond de l'Ukraine, au sud de Zaporizhzhia, bataillon Charles de Gaulle. Pour un Français, pour un écrivain français, pour un Français en général, pour tous mes camarades qui étaient avec moi, c'était un grand moment, c'était magnifique de voir ces hommes intelligents, pour certains frustes, des hommes de guerre, des hommes de paix, les voir communier dans l'admiration de l'homme du 18 juin 40. Croyez-moi, quand on est Français, ça vous fait frissonner. Voilà. Et pour moi, ça a été un moment de grande exaltation pendant ce reportage.
Et les photos de Marc Rossel, le photographe, sont absolument parlantes. Est-ce que vous avez vu les combats ? Est-ce que vous avez vu ces soldats au combat ? Est-ce qu'ils se battent avec une énergie farouche qui, évidemment, leur vient du fait qu'ils défendent leur propre pays, que n'ont pas les soldats russes, évidemment ?
Je les ai vus, en effet, en première ligne, autour de Kherson. La ville de Kherson, qui est une ville qui est tombée dès le mois de mars à cause de trahison intérieure et qui est tombée entre les mains des Russes, elle est aujourd'hui encerclée. Il y a une sorte d'arc tactique qui l'entoure et qui est en train de pousser les Russes dans une poche de l'autre côté du Dniepr. Et là, j'étais avec ces hommes. Alors, ils se battent, en effet, vous les voyez, c'est là. Ils se battent avec une énergie farouche, oui, mais en même temps, une énergie raisonnable. Ce qui me frappe dans l'armée ukrainienne, un peu comme dans l'armée israélienne, un peu comme chez les combattants kurdes, c'est le respect de la vie. C'est l'économie de la vie. Économie de la vie des civils et économie de la vie de leurs propres soldats. C'est pas le genre à envoyer des missions suicides absurdes en envoyant la chair à canon se faire tailler en pièces. Voilà. C'est des combattants avisés. Mais ils l'emportent. Les Russes reculent. Les gars du bataillon Charles de Gaulle dont je vous parlais, je les connaissais. Je les avais rencontrés au mois de juin dernier dans une ville qui s'appelait Oulaipolé. Bon, aujourd'hui, je ne donne pas la localisation exacte parce qu'ils m'ont demandé de ne pas le faire. Mais enfin, en 3 mois, ils ont gagné plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ils gagnent pied à pied en sécurisant leur position, en économisant leurs hommes. Et ça, c'est cette horreur qu'est la guerre, c'est la moins mauvaise des manières de la mener.
Avec un armement qui continue à leur parvenir, un armement évidemment fourni par les Alliés.
Absolument. Ça, c'est la grande différence avec ce que j'ai vu au mois de juin, c'est qu'il y a maintenant des armements américains, il y a des armements français. Les Ukrainiens en ont pris possession, ont appris à les manier en quelques jours. D'ailleurs, il y avait, c'est un exemple très parlant, il y a une ONG, un groupe d'anglo-saxons qui s'appelle les gens de l'opération Mozart. Mozart, hein, c'est des Américains, pas seulement, aussi des Anglais, qui, en opposition aux commandos Wagner, qui sont des criminels, eux sont venus en Ukraine pour défendre la liberté. Au mois de mai ou au mois de juin, ils faisaient des missions d'entraînement. Ils entraînaient notamment des gens du bataillon Azov pour faire la relève à Marioupol. Aujourd'hui, c'est fini. Les mêmes gens de Mozart, qui sont des Américains désarmés, hein, mais qui faisaient de la formation. Aujourd'hui, ils font des évacuations. des évacuations de vieilles dames, de vieux messieurs, d'enfants, d'indigents qui sont coincés dans un village, qui ne peuvent pas sortir, qui n'en ont pas les moyens, qui ne peuvent pas payer les 1000 euros pour payer le passeur, etc. Ils vont les chercher. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que on n'a plus besoin d'entraîner les Ukrainiens. Ils ont les armes qui leur sont livrées régulièrement et ils s'en servent avec, une maestria et un esprit de mesure absolu.
Bernard-Henri Lévy, pendant ce reportage pour Paris Match, je vous ai tombé sur un drone dans lequel il y avait des composants français. C'est-à-dire voilà. Que la France livre bien ses armes-là.
Alors ça fait moins plaisir. Oui, c'est un drone russe. C'est-à-dire et que c'est un drone russe. Oui, bien sûr. Lorsque nous étions là, avec Marc Roussel, avec J. Herzog, avec Olivier Jacquin, il y a eu ça. En effet, un drone abattu par les Ukrainiens. Et c'est une drôle de chose, un drone. C'est un gros oiseau éventré. Et puis du ventre du drone à terre sortait tout un tas de fils et d'électronique. Et en effet, c'est grand, c'est presque de la taille d'un homme. Et les composants électroniques, c'était du made in France. Alors j'ai un peu fait l'enquête, c'est évidemment pas aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un drone livré il y a plusieurs années, à l'époque où il y avait des relations normales avec la Russie. Enfin, normal. Moi, je pense que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû se méfier de Poutine. Enfin, peu importe. Mm-hmm. Donc voilà. Et ça, c'est vrai que c'est moins gai que de tomber sur le bataillon Charles de Gaulle.
L'état d'esprit des hommes et des femmes que vous avez rencontrés en Ukraine, puisque vous en revenez, il est combatif ? Il voit la victoire ou il oui. reste quand même très prudent sur l'issue de ce conflit qui risque d'être
non,
encore
ils
long ?
Non, ils sont prudents parce qu'ils sont, comme je vous le disais tout à l'heure, mesurés et raisonnables, mais pour eux, la victoire ne fait pas de doute. Et la victoire ne fait pas de doute pour une raison très simple. Vous savez, Franck Capra, pourquoi nous combattons ? Eux, ils savent pourquoi ils combattent. Ils combattent parce qu'ils défendent leur maison, parce qu'ils défendent leur famille et parce qu'ils défendent des valeurs. Ils défendent les valeurs de l'Europe. Ils sont les sentinelles de l'Europe. De l'autre côté, les Russes, pourquoi nous combattons ? Il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas pourquoi ils combattent. Ils combattent pour permettre à un homme seul, à un dictateur et à une clique autour de lui de rester au pouvoir. Ben, quand vous avez ces deux forces face à face, il n'y a pas photo. Ceux qui savent pourquoi ils combattent, ceux qui ont ce moral-là, eh bien, à la fin des fins, ils l'emportent. Et c'est ça que m'ont dit partout, que ce soit à Kharkiv, que ce soit dans la région d'Izium, que ce soit à Zaporizhzhia ou ailleurs, c'est ça que m'ont dit tous les combattants ukrainiens que j'ai rencontrés. Alors ils ont, encore une fois, économes de leur force, ils ont peur, ils savent qu'un missile peut tomber à tout moment, mais ils savent qu'à la fin des fins, quand David est vaillant et quand Goliath est veule, c'est David qui l'emporte. C'est ce que pensent profondément tous les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer.
Bernard-Henri Lévy, vous étiez sur le terrain. Les exactions des soldats russes sont une réalité. Il y a des victimes torturées. On a retrouvé des corps dans certaines localités. C'est une abomination que vivent les Ukrainiens.
Il y en a partout. Là, il y a eu en effet un coup de projecteur heureux sur Izium, comme il y en avait eu un sur Gostomel, sur Irpin et sur Boutcha avant l'été, mais il y en a partout. Vous savez, j'étais à Mykolaïev il y a 4 ou 5 jours. Le matin du jour où j'étais là, il y a une école qui a été bombardée. Et une école bombardée par un missile, je crois qu'il y a une photo dans le reportage de match, c'est pas beau à voir. Elle est cassée en son milieu, totalement éboulée. Le missile l'a visée, l'a fracturée. C'est horrible. C'est une école. Après, il y a un autre, le même jour, il y a eu deux missiles qui sont tombés sur la ville. C'était une espèce de, je sais pas, de centre commercial, mettons. De grands malls, comme on dit aux États-Unis, loués à des petits commerçants, à des épiciers, à des... Là encore, un missile l'a totalement détruit, avec évidemment des corps ensevelis, des secouristes tentant de rechercher des dernières traces de vie. C'est affreux. C'est affreux, c'est une guerre aveugle, c'est une guerre cruelle, c'est la loi des barbares. Et ça, c'est partout, c'est vrai. C'est vrai dans la région de Kherson. J'ai vu un pauvre village dont je parle dans ce reportage. Là encore, le village a été bombardé sans aucune raison militaire, il ne représentait rien, etc. Donc c'est ça, partout.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu partager ce que vous avez vécu sur le terrain. Reportage évidemment à lire dans Paris Match de cette semaine.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christine Kelly sur Face à l'Info qui vous attend sur CNews et Raphaël Devolvé pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous et à demain pour Punchline.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.